Dieu soit béni. Nous allons prendre la parole dans Jérémie 18. Jérémie 18. À partir du verset 1er, Jérémie 18. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous, que chacun revienne de sa mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Voilà, en ce début d'année, le message que j'ai eu à cœur de partager, c'est sur Jérémie 18. Dieu dit qu'il va parler à Jérémie en prenant exemple sur le potier. Et donc il envoie Jérémie dans la maison du potier. Et au verset 3, c'est écrit, je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Alors, le potier travaillait le vase, ça ne réussit pas. Maintenant, pourquoi ça n'a pas réussi? Est-ce que parce que le potier ne sait pas faire des vases? Non. L'explication nous est donnée dans le texte même. Tel qu'il arrive à l'argile dans la main du potier, la suite nous dit, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tel que le potier voulait faire le vase, l'argile n'a pas tenu. Tous les vases n'ont pas les mêmes formes. Donc il y a des lois physiques, il y a des lois physiques, oui, sur la texture de l'argile, qui va permettre qu'avec telle argile, on puisse faire tel vase, de tel volume, de telle forme. Et là, le potier, en voulant faire une forme donnée, ça n'a pas marché. Alors, en fonction de l'argile, il a fait un autre vase. Alors, ma prédication, c'est que cette année, tu sois attentif. Si l'année passée n'a pas marché pour toi, que cette année, tu te laisses travailler par Dieu pour qu'il fasse de toi un vase d'honneur, un vase d'or dans sa maison. Ce n'est pas la faute du potier si ça n'a pas réussi. C'est l'argile qui n'a pas été conforme à ce que le potier voulait faire comme vase. Mais le potier ne s'est pas découragé. Il s'est dit, je peux faire autre chose encore. Mais imaginez que l'argile ne tienne toujours pas. La fin sera grave. On prend la masse de terre, et bien on jette, puisque ça ne marche pas. Mais tant qu'on est vivant, il y a de l'espoir. Dieu peut faire autre chose. Dieu avait prévu quelque chose. Ça n'a peut-être pas eu lieu pour toi. Il y a 10 ans, il y a 12 ans, il y a 15 ans, il y a 3 ans. Mais disons l'année passée. Puisqu'on peut tirer des conclusions de l'année passée. La chose que Dieu voulait faire de toi, ça n'a pas eu lieu. 2009 n'a pas été tel que tu aurais voulu, tel que Dieu aurait voulu. Mais cependant, il y a une seconde chance. On peut te refaire, Dieu peut te refaire, mais il a besoin de ta docilité, il a besoin de ta confiance, il a besoin de ta soumission, que tu te soumettes comme l'argile à la main du potier. Parce qu'avec Dieu, on ne peut pas dire, tiens, je suis enfant de Dieu, je suis apôtre, pasteur, je suis archibishop ancien et Dieu est avec moi et il sera toujours avec moi. Non, la Bible dit, tant que nous avons la foi en Dieu, il sera toujours avec nous. Le juste est sauvé par la foi. La foi, ce n'est pas seulement le fait de croire qu'il existe. La foi, c'est de lui faire confiance dans tous les domaines de notre vie, lui faire confiance dans tout ce qu'il dit dans sa parole. C'est ça la foi. Et comme ce texte nous le dit, dans la suite, verset 7, « Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. » Dieu dit que ce n'est pas parce que il avait l'intention de travailler avec toi d'une manière que tu peux te permettre de te retirer de la parole. Tu peux te permettre de mentir, de pécher, de faire ta volonté. Croire que le plan de Dieu s'accomplira toujours, c'est faux. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse, notre soumission, notre foi est exigée. Sinon, Dieu fait autre chose. C'est pourquoi il a dit, c'est comme l'argile dans la main du potier. Il a dit, maison d'Israël, je suis capable aussi de me comporter avec vous comme ça. Ne pensez pas que puisque j'avais prévu telle chose, je deviens comme obligé. Non. Si vous ne voulez pas de ce que je voulais faire de vous, je peux changer, faire autre chose. Comme le potier a réalisé que l'argile n'allait pas avec la forme qu'il voulait donner au vase, il s'est dit, ben, je vais faire un autre vase. Alors moi aussi, je peux me comporter de la même manière avec vous. Donc, bien-aimé, on peut avoir eu à recevoir des prophéties. On peut avoir manifesté à un certain moment une grande puissance. Mais ce n'est pas définitif. Notre fidélité est exigée pour qu'on continue à baigner dans le plan de Dieu et à manifester sa gloire. Dieu dit, je peux changer toujours. Si toi tu continues à refuser, moi je peux changer. Bien-aimé, que personne ne nous trompe. Qui que nous soyons, nous devons être dociles, soumis à Dieu. Nous devons suivre la Bible. Je donne souvent les conseils à mes collaborateurs. Je dis qu'on vous attrape sur tout, mais pas sur la Bible. On peut te critiquer sur des choses invérifiables. Il n'y a pas de problème. On peut te soupçonner. Pas de problème. Mais le jour où on t'attrape dans une infraction à la parole de Dieu, tu as beau être fort. Tu as beau avoir toute la puissance politique avec toi. Tu as beau diriger le monde entier. Un jour ou l'autre, on te mettra à terre parce que tu n'es pas conforme à la parole de Dieu. Ça va, à l'époque, il y a 10 ans, où nous, on était chrétiens, dans la région parisienne, tu ne pouvais même pas te lever et dire non, il ne faut pas vendre les choses de Dieu. Nous avons reçu gratuitement, donné gratuitement. Dès que tu osais faire une insinuation dans ce sens-là, tu recevais une gifle de paroles. Mais vous, les chrétiens, vous ne voulez pas investir dans les choses de Dieu. Vous ne voulez pas donner, acheter. Voyez, c'est pourquoi les ministères n'avancent pas. C'est pourquoi on n'a rien du tout. C'est pourquoi les choses de Dieu n'avancent pas, surtout en France. Donc, on n'osait même pas dire qu'il ne faut pas vendre les choses. Mais aujourd'hui, non seulement certains chrétiens se sont levés pour dire, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il ne faut pas vendre les choses de Dieu. Mais même des païens commencent à faire allusion à ça. Ça veut dire quoi? Les gens qui, à l'époque, étaient super forts pour faire taire les chrétiens qui voulaient dire non, 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 mais c'est pas bon. À l'époque, ils avaient une sorte de puissance globale, une sorte de puissance populaire qui faisait qu'ils imposaient leurs règles de tout vendre. Mais, comme c'est contraire à la parole, tôt ou tard, tu finiras par t'affaiblir et tomber. Donc, tu peux être puissant un temps, mais quand tu es en dehors de la parole de Dieu, tôt ou tard, on t'aura. Parce que la parole de Dieu est éternelle, alors que les autres choses sont temporaires. Donc, du moment que ta base n'est pas la parole de Dieu, tôt ou tard, la chose que tu fais lâchera. C'est pourquoi c'est écrit dans Psaume 127, « Celui qui se bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. » Tu peux, pendant que tu es en train de bâtir, paraître être le plus fort, paraître avoir tout ce qu'il faut, mais ce n'est qu'une apparence. Du moment que tu ne suis pas la parole, du moment que tu n'es pas soumis à la parole, tôt ou tard, ce qui est caché sera manifesté et on saura que tu avais un problème, même si tu faisais de donner l'impression de n'avoir aucun problème. Les parents qui négligent l'éducation de leurs enfants, ils vont amener les enfants à l'église. Ils vont amener les enfants dans des endroits. Les enfants vont être bien habillés. Ils vont parler avec des mots polis. Mais si tu avais négligé l'éducation par la parole, si tu avais négligé l'éducation en ce qui concerne l'humilité, la droiture, tôt ou tard, ces apparences-là tomberont, la réalité sera là. Autant bâtir selon la parole de Dieu. Dieu nous prévient. Ce n'est pas parce que tu sens en toi un ministère quelconque, pastoral, évangélique, apostolique, tout ce que tu veux. Ce n'est pas parce que tu sens en toi que tu as des dons de chant. Ce n'est pas parce que tu sens en toi que tu as les dons de richesse que ça s'accomplira forcément. Ça dépend de ta collaboration. Une graine ne produit pas forcément un arbre. Tout dépend de la terre sur laquelle on la pose. Il y a une collaboration qui est nécessaire. La graine doit mourir pour produire l'arbre. Si elle ne meurt pas, elle ne peut pas produire l'arbre. Mon exhortation, c'est revenir à la soumission à Dieu. Revenir à la vision de la Bible. Ne pas chercher à donner des apparences vis-à-vis des humains. Seule la parole de Dieu est éternelle et permanente et vivante, comme dit notre apôtre Pierre. La parole de Dieu est permanente et vivante. Elle ne se flétrit jamais. Quand tu bâtis selon la parole de Dieu, même si tu es critiqué, un jour ou l'autre, comme Jésus-Christ à la croix, le centenier romain a dit, celui-ci était réellement le Fils de Dieu. Un voisin est crucifié, a dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Tôt ou tard, quand tu bâtis selon la parole, même si tu es ignoré, tôt ou tard, un jour la vérité montrera que c'est toi qui avais raison. Il y a des gens comme des Watchman Nee qui ont fait 20 ans en prison. Aujourd'hui, ses écrits se sont répandus dans le monde entier. On est en train de lire à propos de lui. Beaucoup de gens étaient ignorés. Viendra quelqu'un qui va écrire leur histoire, tout le monde saura. La vérité ne peut pas être enterrée. La vérité est puissante, permanente et vivante. Mais les autres choses qu'on peut bâtir, l'apparence d'être chrétien, l'apparence d'être fidèle à Dieu, croire qu'on est quelqu'un, l'apparence mettre les enfants dans les meilleures écoles, faire ceci en apparence, selon la technique du monde. Un jour ou l'autre, si Dieu n'est pas dans l'affaire, la faillite sera visible. Alors je nous conseille de laisser Dieu faire de nous ce qu'il veut. Ne faisons pas comme ce premier argile qui n'a pas voulu, il a fallu faire autre chose. Peut-être 2009, tu as été comme ce premier argile qui n'a pas voulu être façonné à la manière de Dieu. Ne commets plus les mêmes erreurs. Laisse-toi façonner maintenant par Dieu. Bien-aimé, où est-ce que vous avez vu de l'argile parler pour dire non, non, je veux telle forme de vase. Si quelqu'un a déjà entendu l'argile parler, on va le féliciter là, bien-aimé. L'argile n'a jamais parlé pour dire je veux qu'on me fasse sous telle forme. L'argile se laisse modeler. Maintenant, quand on dit il faut se laisser modeler, certains veulent polémiquer avec Dieu. Non, 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 Dieu, moi je pense que pour me guérir, il faut que tu me donnes tel médicament, il faut que tu me donnes, qu'on m'impose les mains à gauche, pas à droite. Donc c'est eux-mêmes, maintenant ils veulent discuter avec Dieu de leur avenir, bien-aimé. On ne peut pas discuter quand on est dans les mains du potier. On doit se laisser modeler. Qu'est-ce que ça signifie se laisser modeler? Les circonstances que Dieu va permettre, tu dois les gérer en fonction de sa parole, de sa volonté, non en fonction de ce que toi tu veux que ça soit. Parce que la Bible dit dans Romains 8, 28, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit dans Daniel 2, 21, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Beaucoup de chrétiens se rebellent à cause des circonstances. Beaucoup de chrétiens gèrent mal les circonstances et ils veulent changer le contenu des circonstances et ça tourne mal parce qu'ils résistent à Dieu. Ils ne veulent pas être modélés par les circonstances que Dieu permet. Et ils résistent. En résistant, Dieu est obligé de faire un autre vase de moindre qualité. C'est malheureux. Dieu voulait faire quelque chose de beau, un vase d'or, un vase d'honneur. Mais toi, tu résistes. Tu dis non, non, non. C'est pas comme ça que j'entends le christianisme. Non, 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 c'est pas comme ça que j'entends les choses. Non, bien-aimé. Non, 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 non. C'est pas cette église pour moi. C'est pas ce pasteur pour moi. Ces enfants ne sont pas pour moi. Mes parents ne sont pas pour moi. On veut soi-même s'imposer. Imposer à Dieu comment les choses doivent se passer. Et parfois, c'est nous-mêmes qui avons commis des erreurs autrefois et on en subit les conséquences et on veut que Dieu efface les conséquences devant nous alors que Dieu veut utiliser ces conséquences pour nous façonner. Dieu n'est pas rancunier. Il nous pardonne quand on demande pardon, mais il peut laisser certaines conséquences s'abattre sur nous parce qu'il veut faire de nous des vases purs, des vases d'honneur, des vases utiles, propres à toute bonne œuvre, comme c'est écrit dans l'épître à Timothée. Mais nous devons le laisser travailler. Nous devons le laisser travailler. Le laisser travailler, ce n'est pas être silencieux vis-à-vis des autres. Il y a des moments où on sera silencieux, il y a des moments où on veut parler. On va parler. Mais laisser Dieu travailler, c'est se poser la question suivante. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? C'est se poser la question suivante. Qu'est-ce que la parole de Dieu me conseille d'agir par rapport à ces circonstances qui m'interpellent? C'est se poser ces questions-là. Mais Dieu aurait voulu que j'agisse comment? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pendant que tu poses ces questions-là? Le vieil homme va te dire... Tu dois réagir de la manière A. Parce que si tu ne le fais pas, les gens vont parler. Si tu ne le fais pas, où est ton honneur? Si tu ne le fais pas, tu n'as pas d'avenir. Le vieil homme va te dire, ne crois pas quand même que l'argent va tomber du ciel comme la manne. Ça, c'est le vieil homme, l'ancien homme. Mais la Bible dit, revêtez l'homme nouveau. C'est comme ça qu'on peut se laisser faire. Nous lisons Éphésiens 4. Comment laisser Dieu travailler en nous comme le potier travaille l'argile? Il faut revêtir l'homme nouveau. Éphésiens 4, à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Comment marchent les païens? Ils marchent en fonction de la vanité de leurs pensées. Un exemple, le païen va se dire, tiens, j'ai 2000 euros dans mon compte, donc pendant une semaine, je vais faire les soldes tranquille. Donc c'est la vanité de ses pensées. Mais ce qu'il ne sait, pourquoi on appelle ça vanité? Parce que c'est de l'avantardisme basé sur rien du tout. Pourquoi? Parce que cet argent-là peut disparaître lors d'un vol. Pourquoi? Parce qu'on peut annoncer une mauvaise nouvelle et qu'il dépense tout cet argent-là pour réparer ce problème-là qu'on vient de lui annoncer et il ne fait plus les soldes. Ça, c'est les païens. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc, ils ont des possessions, ils ont des capacités, et ce sont ces capacités et ces possessions qui déterminent leurs pensées. Par exemple, il va se dire, je suis beau, donc je peux toujours m'amuser, et puis je trouverai toujours une femme pour moi. Elle va se dire la même chose, parce qu'elle est belle. Donc, c'est la vanité des pensées. Or, quand on observe bien, il y a beaucoup de prostituées qui sont très belles et qui n'ont pas d'hommes. Et il y a beaucoup d'hommes qui cherchent aussi, qui peuvent se retrouver célibataires jusqu'à 60 ans parce que c'est compliqué. C'est la vanité de la pensée humaine. J'ai quelques biens, j'ai quelques possessions, je suis, j'ai tel diplôme. Donc, et ce sont ces pensées-là qui conduisent les païens. Donc, un païen a besoin d'avoir quelque chose pour penser, pour faire des projets, a besoin d'éléments concrets. Et ce sont ces éléments concrets qui vont le perdre, parce que lui, il les voit comme concrets, mais en réalité, dans le temps, ce ne sont pas des éléments concrets, c'est des choses qui vont passer. Un joueur de football qui a 24 ans a l'impression qu'il sera toujours fort, alerte, rapide. Mais à 45 ans, il se rend compte que c'était comme un rêve, les 24 ans. C'est pourquoi Dieu appelle ça vanité. Ça passe. Comme la fumée. Comme la vapeur. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Deux éléments donnés pour montrer la source de l'égarement des parents, des païens, l'ignorance et l'endurcissement du cœur. Il y en a qui sont ignorants, d'autres ont entendu, mais n'ont pas voulu céder. Et en refusant de céder, leur cœur est devenu encore plus dur. Il faut encore leur faire entendre la parole d'une manière encore plus puissante pour céder, pour qu'ils cèdent. Et quand ils cèdent, ça devient encore plus dur. Et ils deviennent pratiquement insensibles. L'ignorance. Le païen croit que ce qu'il voit, ce qu'il pense comme étant vrai, c'est ça qui est vrai. Mais c'est parce qu'il est ignorant des choses de Dieu. Il va considérer, par exemple, qu'une vedette de la chanson, c'est son Dieu. Nous voyons des gens collectionner des maillots, collectionner des photos des joueurs de football comme étant de Dieu. Mais un jour, ils vont regarder un match et ce joueur-là va rater un penalty et perdre la coupe. L'adoration de ce Dieu-là va se transformer en quoi? En tristesse, en maladie, en pleurs, parfois en crise cardiaque. C'est vain. Tu peux supporter une équipe qui remporte plusieurs victoires. Et puis un jour, tu vas te déplacer à 1000 km pour supporter la même équipe. Elle perd le match. Un jour, elle va perdre le match dans sa ville propre, avec un grand score. Et tu vas retourner à la maison en pleurant. Toi qui étais dans la joie il y a quelques mois à cause de la même équipe. Et la même équipe va te donner la tristesse, les pleurs. C'est ça la vanité de la marche des païens. Ils s'accrochent à des choses qui ne sont pas solides. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants. Ils ne voient pas tel que nous devions voir. Ils ont l'intelligence obscurcie. Comme nous étions autrefois, comme j'aime à le dire, quand on était jeunes, on avait une certaine façon de marcher. Mais cette façon de marcher faisait qu'une jambe devenait plus courte que l'autre à la longue. Mais nous, on trouvait ça extraordinaire. C'est l'intelligence qui est devenue obscurcie. Pour certains, quand on était jeune, fumer, c'était quelque chose qui faisait que tu étais quelqu'un de fort. Mais aujourd'hui, beaucoup se retrouvent avec des cancers de poumons parce qu'ils ont commencé à fumer très tôt. Beaucoup ont dépensé ce qu'ils pouvaient utiliser pour des choses meilleures, voitures, permis, à acheter des cigarettes. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont SDF parce qu'ils sont devenus esclaves de ce qui faisait leur force autrefois. Peut-être c'est l'alcool qui faisait sa force. La cigarette faisait sa force. En devenant esclave de ces choses, il a fini maintenant par devenir une loque. L'intelligence est obscurcie. Il ne voit pas les choses telles qu'on doit les voir clairement. À cause de quoi? De l'ignorance et à cause de l'endurcissement du cœur. Le refus de céder. Ayant perdu tout sentiment, verset 19, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. L'apôtre nous donne maintenant la conséquence. Quand l'intelligence est obscurcie comme ça, il y a une descente aux enfers dans le dérèglement. Tu vas commencer par des pratiques sexuelles mauvaises. Après, ça ne sera plus suffisant. Il y en a qui en arrivent à faire les échangismes. Après, ce n'est pas suffisant. Tu deviens nudiste. Après, ce n'est pas suffisant. Peut-être que tu vas devenir un oiseau. Tu ne peux pas le devenir. Mais tu t'enfonces dans le dérèglement. Après, pédophile, tu t'enfonces. C'est ce qui arrive. J'ai l'habitude de dire la bêtise n'a pas de limite. La bêtise n'a pas de limite. On se dit, je vais m'arrêter à tel niveau. On ne s'arrête jamais dans la bêtise. Jamais on s'arrête dans la bêtise. Dès qu'on autorise la bêtise, sachons que si on ne se répand pas pour revenir à Dieu, ben ça ne s'arrêtera pas du tout. Ça ira toujours plus loin. On se demande, certains qui sont milliardaires, pourquoi ils cherchent toujours l'argent? Parce qu'ils sont devenus esclaves. La bêtise n'a pas de limite. Tu vas chercher toujours encore plus. Et encore plus. Voyez les mannequins d'aujourd'hui. Ils sont devenus filiformes. Il y en a, dès qu'ils mangent, ils vomissent. Ils vont vomir pour ne pas grossir. Mais pourquoi tu as mangé? Ils mangent après pour aller vomir. Parce qu'il faut rester mince, filiforme. Et j'entendais un mannequin d'autrefois, célèbre, Cindy Crawford, qui expliquait que si les tailles réclamées aujourd'hui étaient réclamées autrefois, elle ne serait pas mannequin. Déjà, autrefois, elle paraissait mince, mais aujourd'hui, on trouve ça gros. C'est pour dire quoi? La bêtise n'a pas de limite. On dit mince, 70 kilos. Après 10 ans, 60 kilos. Après 10 ans, 50 kilos. Après... Et puis un jour, on va dire, c'est quand tu es squelettique, c'est là que ça passe bien, dans les vêtements. Donc la bêtise n'a pas de limite. Ça continuera toujours et toujours. Ça ne s'arrête jamais. C'est ça le dérèglement. On ne se contrôle plus dans ce qu'on fait. C'est le dérèglement. Ça continue. Devant les enfants, au début, tu buvais dans un bar. Après, tu as commencé à boire dans ta chambre. Après, tu ne peux plus t'arrêter, c'est devant tes enfants. Ça n'a pas de limite, bien-aimé. Ne pensons pas qu'en allant dans la bêtise, tu peux dire « je m'arrêterai à 50 ». Non, ça fait que continue après. C'est pourquoi la solution, ce n'est pas autoriser la bêtise. Parce que si tu l'autorises un tout petit peu, elle t'amènera toujours plus loin. C'est ça la réalité. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créés selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Et là, l'apôtre nous dit, mais il ne faut pas, vous qui avez reçu Christ, si vous l'avez reçu réellement, suivre comment agissent les païens. Vous avez appris à vous dépouiller, verset 21, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, verset 22, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Donc ne plus réfléchir comme avant. Un exemple, il y a des gens qui se convertissent. Quand ils étaient dans le monde, ils cherchaient l'argent. Maintenant, quand ils pour être heureux, quand ils se convertissent, ils se disent maintenant, Dieu dirige ma vie. Ils veulent continuer à chercher l'argent, mais en s'attendant à ce que Dieu leur donne pour être heureux. Donc, ce sont des gens dont l'intelligence n'a pas été renouvelée. Dans le monde, pour être heureux, il faut avoir de l'argent. En venant en Christ, ils n'ont pas changé leur intelligence. Ils ont juste changé de banquier. Ils disent, maintenant, au lieu que mon banquier, ça soit la Société Générale, ça sera Dieu. Alors Dieu, donne-moi la voiture. Dieu, donne-moi l'argent. Il n'a fait que changer de banquier. Alors que la vraie intelligence, la vraie logique lui aurait dit, monsieur, frère, sœur, tu n'as plus besoin d'argent pour être heureux. Parce que ton Père, qui est ton Dieu, il a tout. Tu as besoin que de lui, et lui pourvoira tes besoins. Tu n'as pas besoin d'un compte bancaire rempli. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as besoin de Dieu. Et Dieu te donnera ce qu'il faut pour que tu sois heureux au bon moment. S'il veut te donner des millions, il le fera. S'il veut te donner rien du tout en parlant d'argent, il le fera. Mais tu mangeras, tu seras vêtu, tu vivras normalement. C'est Dieu qui gérera ta vie. C'est ça, c'est laisser modeler par le potier. Tu ne peux pas décider que pour que tu sois heureux, ton compte doit être rempli. Parce que à quoi sert un compte rempli ? C'est acheter des choses, manger, vivre. Mais si Dieu peut te faire vivre sans que ton compte soit rempli, pourquoi toi tu veux discuter? C'est refuser d'être modelé par le potier. Tu ne peux pas décider que les problèmes de ta famille, c'est à toi de les résoudre financièrement ou matériellement. Si Dieu veut que ta famille connaisse, que le connaisse, il va permettre que toi, tu sois incapable d'aider financièrement, d'aider peut-être matériellement, pour que ces gens-là le cherchent lui-même aussi. On doit accepter les circonstances telles que Dieu nous les impose. Et quand on refuse, il est obligé de changer encore de vase, de façonner le vase d'une autre manière. Parce que nous, on ne veut pas nous laisser modeler par Dieu. L'intelligence n'est pas renouvelée. Et maintenant, quand Dieu va te dire non, tu n'as pas besoin d'argent, tel que tu le pensais dans le monde. Ah non, 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 non. Il y a des faux prédicateurs qui vont te dire, mais c'est écrit ça, on ne manquera de rien, il faut demander l'argent. Bien-aimé, le meilleur prédicateur, c'est Jésus lui-même. Et Jésus nous a donné son exemple. Jésus ne tenait pas l'argent, mais il mangeait, il vivait chaque jour. Il y a Judas qui était un trésorier véreux, qui tenait l'argent du groupe. Mais Jésus l'a laissé trésorier. Jésus ne s'est pas dit, mais il va vider notre argent en volant. Non, il faisait confiance en son Père. L'intelligence doit être renouvelée. Tu n'as pas besoin toujours d'argent. Si tu veux acheter les fruits, demande les fruits à Dieu. Ne demande pas l'argent. Dieu peut te donner les fruits directement. Il peut te donner aussi l'argent pour en acheter. Tu as besoin des vêtements, demande les vêtements à Dieu. Il peut te donner des vêtements directement ou te donner l'argent pour en acheter. Demandons ce dont nous avons besoin pour vivre. Mais ne considérons pas que les possessions matérielles sont une fin en soi. C'est ça qui donne le bonheur. Le bonheur, c'est Dieu qui le donne. Il faut que l'intelligence change. un chrétien ou une chrétienne qui aimait s'habiller dans le monde, quand il vient en Christ, ah ben, il veut maintenant demander à Dieu tout le temps les habits. Mais Dieu va dire, mais oui, mais au ciel, tu t'habilleras comme tu veux. Sur terre, il y a des choses beaucoup plus importantes que s'habiller. Moi, si je m'occupe des oiseaux, je m'occupe des fleurs, je m'occuperai de toi en vêtements. Alors, quand vous leur parlez, ah non, 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 vous exagérez, vous êtes des extrémistes. Non. Dieu sait s'occuper de nous en tout. Il veut d'abord qu'on cherche le royaume de Dieu. Il faut que l'intelligence soit renouvelée, bien-aimé. Il y a des gens qui deviennent chrétiens, mais qui veulent chercher le succès. Bien-aimé. Je ne dis pas que nous ne devons pas réussir ce qu'on fait, mais nous devons réussir ce qu'on fait pour satisfaire Dieu, pas pour que nous on se dise « j'ai bien fait ». Pour un domestique veut très bien préparer, bien nettoyer la maison, ce n'est pas pour qu'il se dise « je suis un bon domestique », c'est pour que son maître soit heureux, à l'aise. Le but, c'est ça. Le but, ce n'est pas que toi, tu perces. Il y en a qui disent, tu vas percer. Non, 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 bien-aimé. Dieu ne cherche pas ce que l'homme soit glorieux, ait de la gloire. Non, il dit qu'il partagera sa gloire à personne. Nous devons servir Dieu pour que lui, il soit heureux. Maintenant, si lui, il est heureux quand toi, tu es en prison, où est le problème maintenant? Pourquoi toi, tu veux le servir dans un palais royal? S'il est heureux que toi, tu ne sois pas connu, pourquoi toi, tu veux être connu? S'il est heureux que tu ne prêches pas, pourquoi toi tu veux prêcher? Tu veux te rendre heureux ou bien rendre Dieu heureux? L'intelligence doit être renouvelée, bien-aimé. Comprendre qu'est-ce que Dieu attend de moi. Est-ce que le bonheur de Dieu se trouverait lorsque moi je prêcherai, lorsque moi je chanterai, lorsque... Non, le bonheur de Dieu se trouverait lorsque moi je lui obéirai. J'obéirai au Saint-Esprit. J'obéirai à sa parole. C'est là qu'il sera heureux. Bien-aimé, ne cherchons pas le bonheur tel que les païens le cherchent. Nous devons changer de conception. Nous devons changer de conception. Il y a parfois des frères ou des sœurs qui peuvent venir me voir parce qu'ils sont comme en situation de faiblesse par rapport à leur mari ou leur femme. Moi, je dis, mais ne cherche pas à être toujours à la hauteur pour que tu te satisfasses, que tu es à la hauteur, tu es fort. Parce que tu vas adopter une logique qui va faire que le jour où l'autre ne sera pas à la hauteur pour répondre à ce qu'il doit répondre pour toi, eh bien, toi aussi, tu vas faire le méchant. Parce que tu vas dire, mais moi, à mon tour, j'avais fait ce qu'il fallait. Non, bien-aimé, acceptons parfois d'être faible et d'être aidé par les autres. Il y en a qui ne veulent pas être aidés par les autres parce qu'ils veulent toujours être à la hauteur. Acceptons parfois de ne pas être à la hauteur et d'être accepté par les autres gratuitement. De sorte que le jour où ils seront en position de faiblesse, on les aidera sans faire l'orgueilleux parce que nous aussi, on avait été aidés quand on était faible, bien-aimés. Beaucoup de gens refusent la faiblesse. Mais la faiblesse, ça nous humilie et ça nous aide à aimer les autres quand ils seront faibles. La faiblesse voulue de Dieu, c'est une belle chose. Ne cherchons pas toujours à prouver qu'on est fort, on est à la hauteur. Ce n'est pas bon, parce que le jour où les autres seront faibles, nous ne les comprendrons pas. Nous devons renouveler notre intelligence. Et dit, vers 4, et à revêtir l'homme nouveau, créons selon Dieu, dans une justice, une sainteté que produit la vérité. Lorsque, bien-aimés, nous avons reçu l'évangile, nous avons reçu l'homme nouveau qui est Jésus. Et ce texte nous montre qu'on a le choix. On a l'homme nouveau à droite, c'est une illustration, l'homme ancien à gauche. Ce texte nous montre que on a le choix d'utiliser l'un ou l'autre à chaque circonstance, à chaque moment. On a le choix. Tout dépend de notre volonté. Qu'est-ce que nous décidons? De revêtir l'homme nouveau qui est Jésus, l'homme qui a des pensées nouvelles, qui ne cherche pas sa joie, mais la joie du maître. Qui ne cherche pas son succès, mais le succès du maître. Qui ne cherche pas à satisfaire les hommes, comme Paul a dit, si je cherchais à satisfaire les hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. Mais si je cherchais à satisfaire Dieu, qu'est-ce que nous choisissons? L'homme nouveau qui accepte d'être diminué, parce que Dieu va le défendre. Vous savez, Jésus, quand on l'a amené au tribunal, on l'a massacré dans les critiques. On a même apporté des gens pour dire des faux témoignages sur lui. Mais la Bible nous dit que Jésus ne s'est pas défendu. C'est ça l'homme nouveau. Il sait que Dieu peut le défendre suffisamment. Qu'est-ce que nous choisissons? L'homme nouveau ou l'homme ancien qui veut prouver qu'il est bon, qu'on l'accuse faussement? Non, bien-aimé, choisissons l'homme nouveau. L'homme ancien va nous amener à réfléchir comme les païens, et Dieu va devenir juste un remplaçant des films, un remplaçant de la banque, un remplaçant des médecins. Il ne va plus être le Dieu véritable qui nous apporte une nouvelle nature, mais il va devenir un remplaçant des systèmes, des institutions qui qu'autrefois nous faisaient fonctionner, nous faisaient vivre. Et ce n'est pas ça Dieu. Dieu nous apporte l'homme nouveau, Jésus. Chacun de nous peut vivre selon cet homme nouveau, créé à l'image de Dieu, selon la vérité. Selon la vérité, bien-aimé, selon la vérité. Ce n'est pas selon des théories des humains, selon la vérité. La vérité, bien sûr, c'est la Bible. C'est cet homme nouveau que nous devons revêtir. Un homme qui a des besoins différents. Aujourd'hui, quels sont les besoins de Jésus dans Jean 4, on vient lui dire, Maître, tu ne manges pas? Il dit, j'ai à manger une nourriture. Mais quelle nourriture? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, d'accomplir son dessein, ses objectifs. Voilà les besoins de l'homme nouveau. Il arrive des moments où il y a la nourriture, mais je n'ai pas envie de manger parce que mes pensées sont sur la volonté de Dieu. Je veux d'abord être à l'aise dans la communion avec lui et après manger, quoi. C'est ça, bien-aimé. L'homme nouveau a des besoins différents. Mais, comme je vous l'ai dit, l'homme ancien est toujours là à côté. Il n'est pas éliminé. La chair n'a pas été tuée. Plutôt, la chair n'a pas été éliminée, effacée. La chair a été crucifiée à la croix. Mais nous avons par notre volonté le choix de la ressusciter ou pas, de la faire agir ou pas. C'est ce qu'on appelle le vieil homme. Ça commence par des petites pensées. Petit à petit, on commence à vouloir faire comme les humains. Ça commence par dire, mais oui, mais toi, ça fait longtemps que tu ne trouves pas du travail. Tu es tout le temps à l'église. C'est zéro ça. Tu es irresponsable. Au début, même certains chrétiens te disent, mais oui, c'est vrai, c'est logique. Hein? Je ne suis pas contre le travail. Au contraire, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais il y a un temps pour tout. Dieu peut décider que pour toi, pendant 20 ans, tu ne vas pas travailler pour sa gloire. C'est lui le potier. Comme il peut décider que toi, tu vas toujours travailler, tu ne vas jamais être à temps plein dans son service. C'est lui le potier. Donc, même si un raisonnement peut paraître potable, cherchons la face de Dieu. Que Dieu dise son raisonnement à lui, sa réflexion à lui. Il y a des raisonnements qui peuvent paraître juste intelligents, moralement, humainement, scientifiquement, économiquement, mais ce n'est pas forcément la pensée de Dieu. La Bible dit « Vos pensées ne sont pas mes pensées ». Dieu dit « Vos pensées ne sont pas mes pensées ». Pardon. C'est ça, bien-aimé. Comme certains qui réclament, « Pasteur, ça fait 5 ans. J'attends le mariage, ça ne vient pas. » Mais qui t'a dit qu'il faut que ça vienne avant 5 ans? Un jour, j'ai réclamé le mariage pour quelqu'un et je citais son âge devant Dieu. Et Dieu m'a dit, mais qui t'a dit, où est-ce que c'est écrit qu'il faut se marier avant cet âge-là? Bien-aimé, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu a pour nous tous un avenir particulier. Lorsque nous lisons la Bible, chacun avait un avenir particulier. Jérémie est mort. Ésaïe est mort, scié en deux. Mais David est mort, vieux, en paix, dans une mort naturelle. Étienne est mort, lapidé, jeune. Mais l'apôtre Jean est mort très vieux, naturellement. Chacun a sa route, sa voie. Nous devons laisser Dieu nous manipuler comme le potier. C'est lui qui décide pour chacun. Parfois, la conformité à ce que l'humain trouve normal est très dangereuse parce que ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Les gens diraient quoi? Mais pourquoi Étienne meurt alors que c'est lui qui prêchait très bien? C'est lui qui manifestait la puissance. Pourquoi c'est lui qui meurt? On avait besoin de lui. Mais bien aimé, quand Étienne est mort, il y a un autre miracle que Dieu a fait. C'est susciter Saul de Tarse. Et nous connaissons le travail que Paul a fait. De sorte qu'on n'a pas pu regretter Étienne, puisque Paul a pris le relais, bien aimé. Dieu sait ce qu'il fait. Ce qui peut paraître comme une perte pour nous n'est pas forcément une perte pour Dieu. Combien de fois je me suis dit, mais comment louer des bâtiments au montant auquel on les loue? C'est une perte financière. Mais les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Il décide ce qu'il veut, de ce qu'il a, bien aimé. Apprenons à nous laisser modeler par le Seigneur. David est tombé lorsqu'il n'a plus laissé le Seigneur le modeler. David est un guerrier. Quand on est guerrier, on est un guerrier. Même si on est roi, on est guerrier, on est guerrier. David est devenu roi. Pendant que son armée était en guerre, lui, il a voulu vivre en roi, rester dans son palais. C'est là qu'il est, il est tombé. Il a pris la femme d'une autre personne. Ensuite, il a fait tuer le mari de cette femme. Ensuite, le malheur est entré dans sa vie. À chaque fois qu'on ne se laisse plus modeler par Dieu, à chaque fois qu'on veut tirer profit d'une certaine situation à notre goût, ça finit toujours mal. Dieu peut te donner une voiture aujourd'hui et que tu la perdes une année après et que tu fasses 2 ans sans voiture. C'est Dieu qui nous modèle. Tu ne peux pas te dire, mais maintenant que je roule en Mercedes, quand je changerai, ça doit être une Rolls. Je dois monter de gloire en gloire. Certains prennent des versets pour les utiliser à leur goût, à leur sauce. C'est faux. Notre bonheur, c'est l'éternel, ce n'est pas le matériel. Dieu peut faire que pendant 2 ans, tu prêches à des foules et après 5 années, tu prêches à des individus seulement, à 2, à 3. C'est Dieu qui décide. C'est pas parce que pendant 2 ans, tu as prêché à des foules, il faut que les années qui vont venir, tu continues à prêcher toujours à des foules. Non, Dieu nous modèle comme il veut. Mais on produira des grandes choses. On produira la gloire quand on accepte son travail. Mais quand on ne l'accepte pas, on tourne en rond. Vous savez, quand un avion ne peut pas atterrir sur un aéroport, hein, donc il y a un circuit aérien qui consiste à faire un cylindre comme ça autour de l'aéroport, près de l'aéroport. Et il va tourner jusqu'à ce qu'on lui dise de descendre. Alors donc beaucoup tournent comme ça, comme cet avion-là, en rond, parce qu'ils ne veulent pas se laisser modeler par Dieu. Vous savez, l'homme a été créé pour marcher au sol. C'est ça le modélage de Dieu. Maintenant, quand tu veux, toi, sortir de cette logique-là, qu'est-ce que tu vas chercher? À voler comme un oiseau. Mais bien aimé, tu as beau monter dans les avions, dans des fusées, sauter, mettre un parachute, tu finis quoi? Tu finiras toujours à terre. Tu as beau faire tout ce que tu veux, en dehors de la Bible, tout cela te ramènera toujours au point de départ. Cherche la volonté de Dieu. Tout ce que tu vas faire en dehors de la Bible te ramènera toujours au point de départ. En quelque sorte, tu perds ton temps. Tu es comme quelqu'un qui tourne. Autant, très tôt, se glisser dans la volonté de Dieu et y rester. Tu ne perds pas du temps. Dieu a dit que les vrais chrétiens sont des térébins de justice. Dans Psaume 60, et dans Isaïe 60 plutôt, et dans Psaume 92, il dit que si tu es son serviteur, il te plante. Parfois, je rigole. Les gens qui nous ont connus ici en 2003, ils font un tour en 2007, on est là. Ils font un tour en 2008, on est là. Ils vont dans des boîtes de nuit, ils vont dans des amusements. En 2009, le 31, oh, ils sont toujours là. Térébènes de justice, plantés. Ils perdent leur temps à faire des circonvolutions et au lieu de laisser Dieu les amener. Il y en a qui se disaient, Dieu m'a appelé à chanter avec la voix de Castafiore. On a dit, mais d'accord, laisse Dieu travailler. Oh non, 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 il y a trop de discipline ici. D'accord. Il va aller tourner en rond, chercher dans telle église, dans telle église, dans telle église, et puis finalement ne rien faire. Il va venir, oh, ils sont là, à l'esplanade de la mairie le jour de la fête de la musique, en train de chanter. Mais j'aurais dû rester, je serais peut-être loin déjà. Mais non. C'est ça le plan de Dieu. Tu peux toujours sauter. Vouloir sortir de ce plan, tu tomberas toujours par terre et obligé de commencer à zéro encore. Autant capituler et dire, Seigneur, je te fais confiance. Travaille-moi et j'accepte ton travail. Parfois, ton travail ne me plaît pas, mais je l'accepte parce que je crois que c'est toi qui t'imposes sur moi. Amen. Donc, prions que toute forme de résistance nous quitte. Et qu'on laisse Dieu faire. Il y a des moments où ça nous plaira, il y a des moments où ça ne nous plaira pas. Mais laissons Dieu faire, laissons Dieu travailler dans nos vies. Et on verra la gloire de Dieu, plutôt qu'on le pense. Le diable va nous faire croire qu'on est en train de perdre notre temps. Au contraire, c'est lui qui veut nous faire perdre du temps. Car dans l'obéissance, ce n'est jamais une perte. Pendant que les autres étaient en guerre, David était en train de paître les moutons. On pouvait dire, mais oui, mais tu perds ton temps, tu n'es rien du tout, tu paies les moutons. Mais qui a délivré Israël? C'est David. Bien-aimé. Gédéon était en train de moudre des choses. Hein. Il est en train de moudre, préparer la farine. Aujourd'hui, si on dit à certaines personnes, allez aider à la cuisine, oh, mais ça c'est inutile. Mais Gédéon était en train de faire ça, de préparer la farine. Et puis Dieu dit, vaillant héros, c'est toi que j'ai choisi pour libérer Israël, bien-aimé. Ce que le diable te dit, appelle perte de temps, en réalité, il veut te sortir du plan de Dieu pour te faire perdre le temps. Dans le plan de Dieu, on ne perd jamais le temps. Laissons Dieu nous modeler comme le potier. Et s'il y a eu des erreurs dans 2009, eh bien, réveillons-nous. Ne soyons plus rebelles vis-à-vis de Dieu. La rébellion vis-à-vis de Dieu peut se manifester par la rébellion vis-à-vis des autorités que Dieu établit, vis-à-vis de circonstances que Dieu aussi permet dans ta vie. Dès qu'on a un langage où on donne tort aux autres, des gens commencent à quitter le plan de Dieu. Il y a un problème. Avec Dieu, les autres ne peuvent pas nous se mettre en obstacle contre nous. Ils vont le faire, mais ils vont échouer. Ils te feront la guerre, Jérémie 15 le dit, mais ils ne te vaincront pas. Alors sois en paix, réponds au mal par le bien. Sois en paix, sois patient. La patience fait partie du fruit de l'esprit. C'est ça qui nous fait aller très loin, alors que l'impatience nous fait changer de route et nous fait entrer dans le désert, dans le mauvais plan, le plan de l'ennemi. Seigneur, nous voulons prier que tu nous aides à accepter le plan que tu as formé pour nous, Seigneur. Accepter de se laisser travailler comme l'argile, Seigneur. À ne pas vouloir mettre en avant nos propres désirs, et nos propres logiques qui nous font croire que la gloire doit nous revenir. La gloire ne peut revenir à aucun homme. Nous ne voulons pas que les raisonnements, Seigneur, nous induisent en erreur. Nous voulons être conduits par ta parole, Seigneur, et par ton Esprit Saint. Nous voulons nous dépouiller, Seigneur, du vieil homme, celui qui veut nous éduquer à réagir comme les païens, à vouloir se défendre, à vouloir prouver qu'on est fort. Nous, nous croyons que ta puissance se manifeste dans la faiblesse. Ô Seigneur, aide-nous à être patients en te suivant, à ne pas chercher la rapidité, parce que toi-même tu es rapide. Nous devons chercher l'accomplissement de tes promesses. La Bible dit que tu fais toutes choses bonnes en son temps, Seigneur. Nous voulons que seul ton temps soit le nôtre aussi, Seigneur. D'ailleurs, Jésus a répondu aux apôtres quand lui posait une question. Il leur avait dit, les temps appartiennent à Dieu. L'horaire appartient à Dieu. Tu sais ce que tu fais, Seigneur. Nous, nous devons croire que tu le feras. Ce que tu as promis dans ta parole et que tu construis ce que tu veux accomplir. Nous voulons croire en Romains 8, 28, qui dit que les circonstances, quelles qu'elles soient, sont en notre faveur. Même si elles paraissent malheureuses, ta parole dit qu'elles sont en notre faveur. Que nous croyons enfin de vivre ta gloire, de vivre ta délivrance, de vivre ta puissance. Oh, alléluia, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Nous croyons que la victoire est pour nous. Nous croyons que les promesses sont pour nous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous croyons que toutes les promesses sont oui, amen, en Jésus. Nous croyons que tu feras des exploits avec nous. Nous croyons Jean 14, 12 qui dit que celui qui croit en toi fera de plus grandes choses. Nous le croyons, mais nous ne le cherchons pas. Nous croyons que nous les avons et nous les verrons s'accomplir. Nous voulons obéir, Seigneur, et nous savons que ça va s'accomplir. Nous ne voulons pas courir après les miracles, car la Bible dit que les miracles nous accompagneront. Nous ne voulons pas courir après les exploits, car la Bible dit que les exploits seront avec nous.